La première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par où dire ?
Pascal Tison.
Dis-moi. Par où dire ?
Le Grand Ornu, Bois du Luc, le Bois du Casier et Blénimine ont été classés conjointement sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, ce classement est accompagné d'un plan de gestion, une feuille de route en fait, qui a pour but de nous aider dans le rayonnement local et international de nos sites respectifs et de transmettre aussi ce patrimoine exceptionnel aux générations du futur. Ça nous a permis de mettre en place, en tout cas les équipes pédagogiques ont mis en place, des modules pédagogiques, des outils de médiation, un livre pour la jeunesse également, et différentes initiatives. Et l'opération Call Quartet fait partie de cette dynamique donc initiée par l'UNESCO.
D'une mine à l'autre. De Wallonie à la Flandre, de la province du Hainaut à la province du Limbourg.
Isabelle Sir-Jacobs. Bois du Luc a décidé de décliner l'élément eau dans le projet Call Quartet qui a été mené avec les trois autres sites miniers majeurs de Wallonie. Et donc nous, on a hérité de l'eau. C'est normal puisque Bois du Luc a été créé non seulement pour exploiter le charbon, mais aussi pour l'évacuation de l'eau souterraine. Et d'ailleurs, le premier nom de Bois du Luc, c'est la Société du Grand Conduit et du Charbonnage de Houdain. Et Grand Conduit, ça veut dire le système de l'époque pour évacuer l'eau souterraine. Puisqu'on est dans un charbonnage, et dès qu'on creuse, on tombe sur de l'eau. Et donc il faut d'abord évacuer l'eau avant de pouvoir exploiter le charbon. Donc c'était logique qu'on hérite de l'eau.
D'une mine à l'autre. De Wallonie à la Flandre, de la province du Hainaut à la province du Limbourg. À la province du Hainaut, Call Quartet. Et du côté de Bois du Luc, avec autour de Marie-Poc, Isabelle Sir-Jacobs et les voix de Géraldine Barbery, Françoise Sulkens, Claude Michaud. C'était toute une affaire que cette évacuation ?
Oui, tout à fait. Il fallait des techniciens, il fallait les capitaux. Et donc, en 1685, parce que Bois du Luc a quand même une ancienneté exceptionnelle, en 1685, vous avez 7 personnes qui s'associent pour créer cette société. Et parmi les 7 personnes, vous avez 4 bailleurs de fonds, comme on les appelle ici, puisqu'ils apportent vraiment l'argent nécessaire à la fondation de cette société. Et puis vous avez à côté 3 techniciens. En fait, c'est 3 charbonniers qui ont l'habitude d'exploiter et qui vont construire ce grand conduit pour évacuer l'eau qu'on trouvait en abondance dans les veines de charbon.
Et l'eau était déversée où ?
On ne la remontait pas à la surface. Elle s'écoulait lentement via le grand conduit qu'on disposait en pente douce dans une galerie qu'on creusait exprès pour disposer ce grand conduit. Et en fait, ce grand conduit, ce sont des troncs d'arbres qu'on va évider, qu'on va abouter l'un à l'autre et donc disposer en pente douce pour que l'eau s'écoule vers le ruisseau du Thiriot. Ça veut dire qu'il faut quand même une certaine hauteur pour creuser un puits. On n'est pas dans les Ardennes, mais ça suffisait parce que les couches de charbon à l'époque n'étaient pas très profondes en fait, et on trouvait déjà à 50-60 mètres de profondeur des veines à exploiter.
Et la province du Limbourg à Genk, la Piomista de l'artiste Koen van Mechelen. Avec Wim Dries, Lislo Reimans, Koen van Mechelen et Mario Botta. Bois du Luc. Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Allez, au cinquième.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture,
le monde invisible,
galerie inclinée, circulation des wagonnets, un coup arrêt, 2 coups plus bas, 3 coups plus haut, 4 coups départ. D'une mine à l'autre, par Thierry Jeunicot. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques. Et ce lieu où nous parlons, où on entend une légère résonance.
Alors ici, on est dans l'ancienne salle des porions. Alors un porion dans un charbonnage, c'est un chef d'équipe, un contremaître. C'est lui qui va conduire une équipe de 12 mineurs dans le fond. Et donc, ils se réunissaient ici avant de descendre. Il faut savoir qu'en 1973, quand la société ferme ses portes, le site est un peu laissé à l'abandon et c'est la partie ici qui va être le plus rénovée parce qu'elle était en très mauvais état. Et donc, on a gardé cette hauteur quand même, mais c'est peut-être ça qu'il y a un écho ici.
De Wallonie à la Flandre, de la province du Hainaut à la province du Limbourg.
Il y a 4 axes de développement. On a choisi donc d'abord de développer vraiment l'art de l'exor. Exor, c'est l'évacuation de l'eau souterraine. Donc, on montre les différentes techniques qu'on a exploitées. Pour expliquer ça, on est vraiment dans le puits d'Exor. On a l'ancienne machine en démonstration. Et puis, vous avez aussi un axe sur le transport du charbon, puisque l'eau, ici dans la région, on est près du canal du Centre, c'est un moyen efficace, peu coûteux, pour des matières comme le charbon très lourdes. C'était vraiment l'idéal. Donc, on parle un peu du transport du charbon et du canal du Centre. Et puis, on a un axe sur l'eau en surface. Une fois que l'eau était ici remontée à la surface, avec la machine d'exor, je vous ai parlé tout à l'heure du grand conduit, mais plus tard, on a quand même une machine à vapeur qu'on va acquérir ici vers 1780. Et donc, on remonte l'eau à la surface, on va la stocker au-dessus du puits d'exor et on va s'en servir pour le triage lavoir. On va laver le charbon au triage lavoir et puis on va s'en servir aussi dans la cité, puisque Bois-du-Luc, c'est à la fois un charbonnage, mais c'est aussi un village minier où il y avait quand même plus de 1000 personnes qui vivaient. Et donc, on alimentait comme ça la fontaine Sainte-Barbe. Et alors, le dernier axe qui a été envisagé, c'est l'eau après la mine. Parce qu'aujourd'hui encore, l'eau des anciennes galeries, elle fait parler d'elle. On a par exemple les étangs d'affaisement minier, comme à Strépy, comme le Marais d'Archy, qui ont été créés suite à l'exploitation du charbon. Et donc, on analyse un peu, finalement, l'eau après la mine a eu comme conséquence sur l'environnement, sur notre paysage.
Circulation du personnel ne s'est engagée dans la galerie inclinée qu'après avoir fait un roulement et un coup. Par un roulement et un coup.
L'auberge est là, près du bois nu. L'auberge est là de l'inconnu. Sur ses dalles, les rats trimballent et les souris. L'auberge, au coin des bois moisis, grelotte avec ses murs mangés, avec son toit comme une teigne, avec le bras de son enseigne qui tend au vent un os rongé. Les gens d'ici sont gens de peur, ils font des croix sur leur malheur et tremblent. Les gens d'ici ont dans leur âme deux tisons noirs, mais point de flamme, deux tisons noirs en croix.
Oui, vous dites la Flandre, je pense aussi à l'Irlande, qui a vidé sa population, qui a franchi l'Atlantique pour aller se mettre en nombre immense en Amérique, aux États-Unis.
Et c'est justement la même destination ici, puisque l'œuvre de Larmance s'inspire de ces phénomènes de migration vers le Canada et vers les États-Unis. Donc, effectivement, en Flandre, certains vont chercher du travail, comme on le sait, en Wallonie, vont justement suivre cette industrialisation et chercher du travail ou un autre espoir là-bas, dans des conditions qu'on connaît assez terribles au niveau social. Mais ici, le sujet du tableau, ce sont vraiment les émigrants qui vont se rendre à Anvers pour embarquer vers le Canada ou les États-Unis, exactement comme en Irlande. C'est le même phénomène qui se produit.
Les gens d'ici sont gens de peur, et leurs hôtels n'ont plus de cierges, et leur encens n'a plus d'odeur. Seuls, en des niches désertes, quelques roses tombent inertes autour d'un Christ au plâtre peint.
Géraldine Barbery.
Et Eugène Larmance, qui est vraiment le peintre des foules, c'est un artiste qui travaille dans un style réaliste, mais déjà qui déforme pas mal ses personnages. Il y a un côté bruegelien aussi, très terreux dans ses couleurs. Et il représente une foule en marche avec des enfants, des personnes âgées, des jeunes gens également, qui ont un bagage sous le bras, qui n'ont parfois presque plus rien. Il y a un chien très maigre aussi. Les enfants souffrent de malnutrition, ça se voit très très clairement. Et toute cette foule, cette masse presque uniforme, dirige son regard une dernière fois vers le clocher de leur village qu'ils quittent.
Les gens d'ici ont peur de l'ombre sur leurs champs, de la lune sur leurs étangs, d'un oiseau mort contre une porte. Les gens d'ici ont peur des gens.
On retrouve un peu ça aussi dans la littérature d'Émile Verhaeren, notamment les campagnes hallucinées. Ce recueil de poésie où il évoque, à travers des poèmes, justement ces campagnes qui sont à la fois vidées aussi, mais hallucinées dans le sens où on n'a plus que ses mains pour prier, en fait. Voilà, il n'y a plus que la religion qui les tienne encore un peu en vie. Alors que la bourgeoisie progressiste s'éloigne totalement au XIXe siècle de cette religion.
La pauvreté, les violences individuelles, les violences institutionnelles, l'injustice, les abus de pouvoir. Je suis frappée de voir combien, effectivement, les artistes s'emparent de ces questions des droits humains. Et puis, ce que je trouve passionnant aussi, c'est que les artistes ouvrent la voie à la diversité. Ils ouvrent la voie à la diversité qui refuse, je dirais, à la fois la pensée unique et en même temps le relativisme de chacun à sa vérité.
Pourquoi ce tableau
de Jeanne Larmance? En fait, on voulait évoquer ici l'immigration. Pour nous, les premiers migrants, ce sont des Flamands. Et donc, Jeanne Larmance, ici, a voulu illustrer le départ de plusieurs familles flamandes vers la Wallonie pour venir travailler. Et c'était aussi au XIXe siècle, fin XIXe.
On a des émigrants, c'est le titre de cette œuvre. Il y a énormément de témoignages à l'époque qui évoquent justement la manière dont ça se passait, notamment les passeurs. Hein. Donc il y avait aussi des passeurs à qui on donnait tout ce qui restait. Et donc on n'a plus que des sabots, parfois même pas de sabots. Il y a certains personnages qui n'ont même pas de sabots, qui sont nu-pieds, sont des va-nu-pieds, littéralement. Et tout ça pour un avenir totalement incertain. Et on leur promettait d'embarquer dans de bonnes conditions à Anvers. Mais finalement, ils se retrouvaient tous dans des cales, les hommes, les femmes, les enfants, mêlés dans des conditions absolument abominables. Et souvent, très souvent même, on balançait leur corps par-dessus bord lors des traversées. Il y avait beaucoup de personnes qui mouraient, des enfants, des personnes plus âgées qui mouraient. Et la littérature de l'époque relate justement ce phénomène.
Alors, la version que j'ai faite d'explication de ce tableau, c'était que c'était des Flamands qui quittent leur village en Flandre pour monter sur des navires pour partir aux États-Unis.
Bon. Alors, je laisserai tout à l'heure l'équipe de Bois-du-Luc qui est ici.
Il y a un très très beau poème d'Émile Verhaeren qui s'appelle « Le départ ».
Les gens d'ici sont malhabiles, la tête lente et le cerveau débile. Quoique tannés d'entêtement, ils sont ladres, ils sont minimes. Et s'ils comptent, c'est par centimes, péniblement, leur dénuement.
Voilà ici, un lieu encore plus mystérieux, puisque c'est ici le départ des hommes pour le fond.
Et quand on lit ce poème devant ce tableau, on a vraiment le sentiment d'y être.
C'est ici que les porions emmenaient leur équipe. On mettait 12 hommes dans une cage. La cage, c'est vraiment comme un ascenseur aujourd'hui. On descendait 4 cages de 12 hommes dans le fond du puits qui se situe à 558 mètres de profondeur. Voilà. C'est aussi le lieu de retour des hommes, mais aussi des matières. Je dis matières parce qu'on ne va pas remonter que le charbon, on va remonter tout ce qu'on évacue du fond, donc de la terre. Et alors, à partir du moment où les chariots arrivaient ici à la recette, ils étaient envoyés vers le triage lavoir, qui se trouvait à peu près 200 mètres d'ici. Il y avait une passerelle aérienne qui acheminait tous ces chariots jusqu'au triage. Et là, surtout les femmes qui travaillaient au triage lavoir, eh bien, elles vont trier le charbon, elles vont mettre de côté les déchets, et de l'autre le charbon, elles vont laver le charbon. Et avec les déchets, mais qu'est-ce qu'on fait? On va les stocker sur le terri. Et alors on estime qu'à peu près sur 100 kg de matière qui provenait du fond, il y avait environ 60 kg de charbon et 40 kg de déchets.
Alors je laisserai tout à l'heure l'équipe de Bois-du-Luc qui est ici.
Donc autrefois c'était le vide sous nos pieds, ça descendait à 558 mètres de profondeur. Ce qui n'est pas exceptionnel puisque vous avez des puits en Wallonie qui font plus de 1000 mètres. C'était déjà une profondeur suffisante. Il faut savoir qu'entre ici la surface et les 558 mètres, il y avait deux étages intermédiaires où on exploitait aussi le charbon. En fait, il y avait quand même pas mal de kilomètres de charbon ici sous nos pieds.
Isabelle Sir-Jacob.
La société de Bois du Luc va acquérir sa première machine à vapeur en 1780, la fameuse machine de Newcomen, qui a été inventée par un Anglais au début du XVIIIe siècle, qui va permettre de pomper l'eau souterraine, et grâce à ça, on va aller chercher le charbon plus profondément. Parce qu'avec ce grand conduit, au bout d'un moment, on n'avait plus assez de pente pour évacuer l'eau, et donc grâce à la machine d'Exor, eh bien, on va aller à 200 mètres de profondeur. Alors ça, c'est... On a mis une image en scaphandre. Au départ, je voulais mettre un vrai scaphandre. Et puis, c'était pas évident d'en trouver un. Alors, pourquoi un scaphandre dans un charbonnage? Parce qu'il faut savoir que le premier scaphandre, il a été inventé pour descendre dans les mines quand il y avait des inondations, quand il y avait des coups de grisou. Et donc, c'était pour protéger et pour pouvoir respirer.
Isabelle Sir-Jacobs, qui a piloté le projet Cold Quartet.
Pour évoquer l'eau en surface, on a décidé de l'évoquer ici dans un lieu propice aussi à l'eau en surface, puisqu'on est dans l'ancienne salle des douches des femmes. Parce qu'à Bois-du-Luc, il y avait une grande salle des douches pour les hommes, mais il y avait aussi, au début du XXe siècle, on a installé des douches ici pour les femmes qui travaillaient essentiellement donc, au triage lavoir. Et donc ici, on évoque, comme je vous ai dit, un peu l'eau qu'on récupérait, l'eau de la fontaine ici, Sainte-Barbe, qui était au centre de la cité, puisqu'ils n'avaient pas l'eau courante. Donc on allait chercher l'eau à la fontaine, qui était alimentée par les eaux souterraines. Et puis l'eau servait à toutes sortes d'usages, que ce soit pour la cuisine, pour le bain. Donc il y a plusieurs... On voit les baquets, les machines à laver aussi, l'ancêtre de nos machines, et les douches. Alors il faut savoir que l'eau qui était récupérée, certes elle était décantée, donc elle était quand même, parce que évidemment venant du fond il faut d'abord la décanter, mais elle n'était pas chauffée. Donc c'était pas commode de se laver avec une eau tiède, voire froide. Après avoir travaillé 8 voire 12 heures dans la poussière. Et donc souvent, les mineurs se relavaient chez eux après avoir pris leur douche ici parce que la poussière, la crasse vraiment ne partait pas.
Ils se lavaient, mais l'intérieur était contaminé.
Mmh. Oui, la fameuse maladie de la silicose qui a provoqué malheureusement beaucoup de dégâts. Les gens mouraient à l'époque, c'est un peu le cancer... comme on le connaît aujourd'hui. Et ce qu'il y a de fou, c'est que cette maladie a été reconnue maladie professionnelle qu'en 1964, donc à la fin, finalement, de l'exploitation charbonnière en Wallonie, un peu tard, malheureusement. Voilà, et on termine donc l'exposition avec l'eau de l'après-mine. Ici, pour l'évoquer, on a mis des photos parce que l'approfondissement des puits provoquait beaucoup de dérèglements dans le sous-sol et donc on avait régulièrement des inondations. Ici, on est dans le Borinage, mais il y en avait ici aussi, à Trivière, on a eu beaucoup d'inondations. Et puis, vous avez la création de ce marais d'Archy ou des étangs de Strépy qui ont été créés naturellement. Ce sont des affaissements miniers, donc c'est le sol qui va se creuser et qui va se remplir d'eau naturellement, puisque l'eau, elle était retenue là depuis longtemps.
Donc je laisserai Isabelle Sir-Jacobs tout à l'heure nous présenter plus en détail le projet Cold Quartet.
Une exposition qui se tient jusqu'où ?
Alors jusque fin octobre, jusqu'au 31 octobre.
Au site du Bois
du Luc.
Du Luc.
Enfin, le musée de la mine et du développement durable.
Or bleu, diamant noir.
Diamant noir.
D'une mine à l'autre. De Wallonie à la Flandre, de la province du Hainaut à la province du Limbourg. Et la province du Limbourg à Genk, la Piomista. De l'artiste Koen van Mekkeleur. avec Windris, Lislow Reimans, Koen van Mechelen et Mario Botta.
Vista, le mélange, le mix de toute la vie, le mot explique le site entier, c'est-à-dire un mélange de la vie, un œuvre d'art sur l'évolution, etc.
Windris.
Donc, moi, c'est le king.
L'artiste Koen van Mechelen était un artiste international qui est connu dans tout le monde, mais c'est aussi un artiste qui travaille local. Il y a une connexion avec notre habitant ici à Genk, par exemple entre la discussion de diversité.
Donc ici, c'est la pierre noire, typique ici pour la région, parce que c'est Zwarberg, le mont noir, c'est l'histoire de mines. L'autre bâtiment de Mario Botta, je ne sais pas si vous avez pu entendre le discours de M. Botta.
Alors le lieu où nous sommes, Mario Botta, le lieu où nous sommes que vous avez construit, me semble vous intéresser quant à la démarche du maître d'ouvrage, les questions qu'il pose.
Oui, Koen van Mechelen, il pose des problèmes. Il dit, bon, moi j'ai ressenti ce problème-là sur la fertilité, sur la vie. Il ne donne pas de solutions. Et moi je trouve qu'il est inquiétant. Toutes les œuvres sont inquiétantes puisqu'il y a une contradiction du langage, une contradiction des couleurs, des thèmes, de la technologie. Et dans ce sens-là, c'est un peu unique dans le cadre de la production artistique du monde. Puisque si on voit, il y a tout un secteur américain qui a transformé l'art dans un marché de grande qualité, hein, puisque, mais c'est seulement le marché. Et il y a des autres plus intimes, je pense à Morandi, qui au contraire, il trouvait à l'intérieur de sa propre chambre, deux chambres, les raisons de la vie.
Koen van Mechelen est une artiste qui parle de diversité pour plusieurs des années et c'est possible avec ce projet ici à Genk pour faire la connexion internationale mais aussi la connexion avec la région locale, avec les personnes qui habitent pas loin de ce projet et faire des choses ensemble avec lui.
Ça c'est la batterie, the battery, ici l'arche qui revient. Entre les deux se trouve Villa Upendi. C'est l'ancien villa de directeur du site, de mines et aussi du zoo. Ce qui est maintenant Villa Upendi, c'est Open University of Diversity. C'est open parce que c'est accessible à tous. C'est aussi university parce que c'est une place, c'est un lieu d'échange des idées maintenant. Et troisièmement, c'est la diversité dans laquelle tout le site est basé.
Van Mechelen m'intéresse puisque il ouvre les contradictions de la vie d'aujourd'hui qui sont propres à notre génération. Il cherche de le transformer dans des images, dans des thèmes artistiques et il le pose comme une interrogation, comme une question. Ce sont des thèmes que la science il connaît bien. Mais on ne peut pas dire aux gens d'aller à l'intérieur des livres scientifiques pour comprendre les raisons de cette condition de l'homme d'aujourd'hui. Et donc, dans ce sens-là, il fait de traits d'union entre la science et l'art, entre la vie et la biologie, entre les formes d'expression qui sont aux marges, qui sont aux frontières des différentes disciplines et il le mêle. Et moi, il m'intéresse cette zone de transition entre différentes disciplines. C'est un peu comme la vie d'aujourd'hui qui est un mélange des manières de vivre, des sentiments, des perspectives et des critiques, puisque l'art, c'est aussi une critique à la banalisation que la culture du global il expose.
Mario Botta.
Dans ce sens-là, je ressens aussi comme architecte, je ne sais pas bien qu'est-ce que sont ces espaces. Ce ne sont pas des espaces d'exposition, seulement d'exposition, ce ne sont pas des espaces de rencontres, de conférences, ce sont des espaces de dire qu'on donne à l'artiste, là tu peux travailler d'une manière, là d'une autre. Et donc, une série de circonstances qui nous ont amenés à cette opération, selon moi, presque unique, puisqu'il est au dehors seulement, ce n'est pas une volonté seulement d'un artiste. L'artiste, il ne savait pas bien où aller, même l'architecte, il ne savait pas bien qu'est-ce qu'il sortait. Mais une série de circonstances, on a fait que Genk, une ville qui avait l'énergie dans les mines, dans le carbon, il est rentré en crise et il renaît en continuation au milieu de l'Europe avec cet thème d'interrogation continue qui cherche de trouver les raisons dans son propre grand passé. Et c'est un événement, je ne sais pas si c'est seulement médiatique, s'il est seulement économique, s'il est seulement du marché, s'il est seulement financier, s'il est seulement du langage artistique, mais il est une réalité qu'il nous a donné de vivre aujourd'hui. Et dans un monde où il y a seulement la consommation, ce n'est pas rien de se poser quelques questions.
Ça s'appelle The Ark, l'Ark. C'est l'arche. L'arche fait référence à l'arche de Noé, bien sûr, pour sauver les animaux du déluge, etc. Aussi l'arche de l'accueil de l'Alliance, pardon. L'arche comme les bateaux, le logement aussi. Et quatrièmement, pour un lieu de sécurité. Donc c'est ça. Là, vous voyez The Garden. C'est déjà un mix de la vie. C'est un hybride, une création hybride qui veille sur le site, mais aussi qui accueille l'homme étranger.
Une région industrielle par le passé, minière, qui dit mine, dit population qui venait d'Europe entière.
La ville de Genk, c'est une ville très diverse. Il y a beaucoup de nationalités, mais aussi beaucoup de personnes de différentes ethniques. Par exemple, l'italien, mais aussi le Maroc, le turc. Ils sont tous ici et ça, c'est pour l'histoire de la mine. Et si je vois maintenant les trois sites de mine à Genk, c'est le site de Waterschei, maintenant un nouveau projet Torpark. C'est aussi la mine de Winterslag, c'est le projet Seamine. Et maintenant, nous sommes dans le site de Zwarberg, la dernière site de mine qui en a un nouveau projet. Et ça, c'est la Biomista. Et ça, c'est aussi la combinaison de l'histoire, respect pour l'histoire, mais aussi des projets pour la future et pour la future de notre ville, économique, culturelle, mais aussi dans nos situations touristiques. Et c'est une combinaison pour toutes les sociétés de la ville de Genk pour faire des projets comme ça, parce que ça, c'est notre futur qui on travaille ici ensemble avec les trois projets, mais avec aussi tous les habitants à Genk.
J'avais déjà mentionné le mot hybride et aussi le site qui est en gestation. C'est une citation de Kunva Mecher, je ne sais pas si vous avez du côté cela. C'est le site qui est encore, oui, en train de devenir quelque chose. C'est un site en évolution. Il dit aussi que la fécondité vient de l'extérieur. Donc ici, on peut entrer, il faut entrer quelque chose quelque part pour faire partir de cette région, mais ça vient de l'extérieur. Il y a trois œuvres d'art qui montrent cette hybridité, qui montrent cette fécondité de l'extérieur. Donc maintenant, on vient de l'extérieur, on va de nouveau entrer dans le site. Mon nom, Lise-Laure. Lise-Laure Riemans. Lise-Laure Riemans. Oui, alors les deux dames.
C'est un projet qui a dit oui sur la diversité. Oui, sur la future, avec une ville, avec une région très divers, parce que ça, c'est la future. Hein. La ville de Genk, 70% de jeunes à Genk sont d'un autre ethnique. Ça, c'est très divers et on peut faire une situation, un moment dans le temps pour entrer ensemble et pour connecter tous les gens ensemble. Et ça, c'est ce que ce projet fait à la Biomista. C'est un projet de connexion entre les animaux, entre les personnes, entre les habitants, entre international et local. Et ces combinations, ces connexions, c'est très important pour un futur vivable.
Alors, c'est compliqué. En pratique, là vous voyez under pressure, là vous voyez déjà le mot, c'est sous pression. Vous voyez les œufs qui se trouvent sous pression, littéralement, sont très coincés, mais aussi sont sous pression parce qu'ils sont sommés de devenir quelque chose. Ils doivent être fécondés par l'extérieur.
Et en un mot, en quoi la ville, dans le lieu où nous sommes, en quoi la ville a-t-elle investi ?
On a investi ensemble avec Koen van Mechelen. Koen van Mechelen a investi l'art ici, mais aussi son atelier. Nous, avec la ville, la même chose. On investit ça dans le parc et dans les bâtiments pour entrer le parc. Et c'est la combination aussi avec l'aide de Région Flamand qu'on investit ici à la Biomista et on fait ça ensemble. Hein. Il y a 8 millions investis par Koen van Mechelen, 8 millions d'euros investis par la ville de Genk et aussi 4 millions d'euros investis par la région flamande.
En fonction de ce que vous dites, quel a été le programme pour l'architecte que vous êtes ?
Au départ, le programme il était assez flexible. Il y avait un lieu. Ça, c'est la force de l'architecture. Il a toujours un lieu qu'il est un unicum dans le monde. Vous ne pouvez pas déplacer de 10 mètres, ça, c'est là. Et donc, vous devez commencer à interroger le site et trouver les solutions dans le site. Et les choses que je vous ai dites sur la ville de Genk, il me semble qu'ils sont le territoire théorique et le territoire pratique sur lequel fonder ce projet, qui n'était pas clair du point de vue des fonctions. L'architecte, il est habitué à avoir des données claires. Je veux un espace de travail, je veux un bureau, je veux un habitat, je veux une école, je veux une église, je veux un marché, je veux une bibliothèque. Et chaque fois, la fonction, il dicte la typologie. Dans ce sens-là, il n'y avait pas une seule donnée. Il y avait un espace de travail pour un artiste. Et une ville, et un héritage d'un ancien parc. Il était en attente de recevoir une autre vie. Et à nous, il est touché, cette tâche. Je pense qu'il est très intéressant, surtout au niveau de la ville. Puisque la ville européenne, encore aujourd'hui, c'est la forme d'intégration humaine la plus évoluée, la plus intelligente, la plus belle, la plus flexible que l'humanité l'a donnée. On a été sur la Lune, mais on ne connaît pas une autre manière de vie collective. Et la ville, aujourd'hui, ressent de la limite de la société de consommation. Si on trouve des autres alternatives comme il est celui-là, je pense qu'il est positif pour tous nous, pour l'humanité même. On travaille toujours la pensée d'une vie collective. C'est le leitmotiv que tous nous, si on va en vacances ou si on ne va pas, qui est sur la table de notre vie quotidienne.
Alors ceci, c'est la chambre un peu des miracles, ce qu'on appelle. Mario Botta, il considère un peu une chambre très très bizarre avec plein de choses bizarres qui n'ont pas de lien en soi.
Et Mario Botta, l'architecte, vous le connaissez ?
Oui, il y a fait un autre projet à Genk, dans le centre, en le passé, je pense, 7 années passées. Il connaît la ville de Genk. Il fait le projet là, dans le centre, et après, il y a des contacts avec Koen van Mechelen, et il revient ici pour faire un autre projet. Et maintenant, on a construction. La construction de l'arc, la construction pour entrer la Biomista, Battery, et ça c'est l'atelier de Koen van Mechelen. Et dans le centre, il y a un bâtiment pour les services qui ont fait là. Et c'est aussi un bâtiment de Mario Botta. Je suis très heureux, comme bourgmestre, qu'on a eu maintenant 3 bâtiments de Mario Botta dans notre ville.
Si vous faites un croisement, peut-être, c'est une idée de complet. Parce que la dualité est très importante. Alors, mais peut-être, c'est pas comme ça. Peut-être un moment, c'est complet, l'autre moment, c'est pas complet. C'est une évolution, mais ça, c'est très intéressant. Et le recherche de ça, c'est une recherche très, très importante, je pense, pour analyser et comprendre la vie.
Koen van Mechelen.
Et ça, c'est mon travail, je pense, un peu. Si tu fais un croisement avec un poulet, c'est casser et construire quelque autre chose. Avec ça, casser une autre chose. Et la vie est comme ça.
L'architecture est aussi une forme d'art, vous dites.
Oui, forme d'art, puisque c'est une forme d'expression de la culture technique, de la culture d'idées. La société formule une demande. J'ai besoin d'une église, j'ai besoin d'une école, j'ai besoin d'une maison. Alors on peut se demander qu'est-ce que c'est aujourd'hui un logement.
Oui, qu'est-ce qu'habiter aujourd'hui?
Oui. Alors, mais c'est un fait lié à notre temps historique. Et je trouve que pas tous, mais une bonne partie, il exprime une culture qui est un résumé de la culture précédente que nous, on a eue. Nous, on est fils du mouvement moderne, on est fils de Le Corbusier, de Cannes, de Picasso. Et donc, c'est aussi une forme artistique. On ne peut pas dire qu'il répond seulement comme une machine, qu'il répond seulement à une forme technique fonctionnelle. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a des formes d'expression. Donc un langage qui parle à l'homme, qu'il est aussi présent, il est important, et que seulement la culture de son propre temps, il peut donner. Puisque si nous, on demande la même chose à un homme qui a vécu dans les années 50, c'est différent. Ou si on le donne à la génération future, c'est encore différent. Dans ce sens-là, la forme expressive de son propre temps, c'est une forme qu'on peut dire artistique.
Vous intéressez à l'art, en général?
Oui, je suis très intéressé à l'art pour toute ma vie, et je pense que l'art, c'est aussi une méthode, c'est aussi quelque chose pour changer notre ville.
Koen van Mechelen travaille sur le croisement renforce en fait la résistance, ça garantit la biodiversité. Et le croisement fait renaître de nouvelles idées. Koen van Mechelen, il a offert un taureau de Kenya au peuple de Masaï, donc un vrai croisement bio-naturel qui est devenu un projet bio-culturel. Ça veut dire le peuple qui est à peu près sauvé parce que maintenant, de nouveau, la région est féconde. C'est le projet de Sotswa qui veut dire le cordon ombilical. Donc de nouveau, la fécondité qui vient littéralement de l'extérieur de notre pays, d'un autre genre. Et troisièmement, c'est là de nouveau un hybride, c'est un singe et un hibou pour l'intellect, le singe pour la gaieté, mais aussi la rationalité vers l'émotion, etc. Donc il y a toujours une dualité des choses, il y a une dualité à la vie, aux animaux au général, mais aussi à l'homme. Et maintenant, on va entrer finalement dans le villa open, bien sûr. Vous pouvez toujours me demander des questions.
Oui, la biomiste, c'est une pièce de l'art en total. Et mon œuvre, c'est une œuvre qui parle de croisement. Alors, j'ai fait des croisements avec le poulet, mais maintenant pendant 30 ans. Qu'est-ce que ça veut dire de faire des croisements? Dans le temps, maintenant, la société est très complexe parce qu'elle est multiculturelle, il y a beaucoup de gens qui viennent. Et nous, si la culture commence à mixer, c'est une question. Qu'est-ce qu'on va faire parce que le monde est petit et grand à le même moment. Alors mon travail parle de ça. Et la biomista, c'est un espace qui parle de sa question. C'est une question d'humanité, simplement ça. Parce que non, l'art, c'est toujours la métaphore de notre vie.
Si on voit l'art, vous demande des questions, il y a des questions, il y a des idées, il y a des connexions. Et je pense que l'art, c'est une méthode, c'est quelque chose qui fait des choses nouvelles pour notre ville.
La Via Mista est juste à côté de la ville et à côté d'un parc national.
Mais Mario Botta, aujourd'hui, qu'est-ce qu'habitait le monde?
Et je vous réponds indirectement avec une constatation. Tous nous, quand on est fatigué, encore aujourd'hui, on est à marre du grand conflit et courir de la vie de chaque jour, on dit, je suis fatigué, je vais à la maison.
Le bâtiment que nous sommes dedans, à ce moment, le nom c'est la batterie. Alors, il y a une serre là-bas.
La maison, il est resté comme un abri ultime pour récupérer les forces pour le jour de lendemain.
La nature est une grande force. Hein. Et nous prétendons de construire ou reconstruire de nature, mais je ne pense pas. Hein. Je suis sûr il n'y a pas possible. Mais la nature va construire. Hein.
Vous avez beaucoup de chance, Koen van Mechelen, d'être accueilli à Genk, dans un espace pareil, et d'avoir les autorités qui vous soutiennent.
Oui,
parce que n'oublions pas que nous sommes en Flandre.
Ça veut dire quoi? Oui, mais c'est très courageux pour faire une chose comme ça. Mais il y a une expression en anglais qui dit « no risk, no glory ». C'est un peu un risque, mais c'est aussi un peu une chose qu'on a besoin. Toutes les autres choses, mais beaucoup de choses sont une grande attraction de tourisme. Non, ça c'est une chose de penser. Et oui, je suis heureux que la ville fait une chose comme ça. Mais je pense que c'est très nécessaire dans le temps maintenant. Très nécessaire. Et dans la ville Genk, c'est idéal, parce que c'est un peu une ville cosmopolite. Alors mon travail est très cosmopolite. Alors c'est une connexion là. Et je pense que la connexion, ça donne une chose qui est très forte.
Alors la maison, au-delà qu'on la vende à mètre carré, on la vende avec les tapis ou la moquette, au-delà de tout ça, il reste dans la conscience de l'homme un abri ultime. Et alors, dans ce sens-là, on retrouve les pensées de Martin Heidegger, de Walter Benjamin, qui parle de la maison comme de l'abri ou de la patrie. Vous voulez le ventre maternel. Nous, on retourne à la fin de la journée dans le ventre maternel. Puisque là, on retrouve notre propre histoire. Notre passé, on retrouve le territoire de mémoire de laquelle on a besoin pour le lendemain. Alors dans ce sens-là, l'homme, peut-être d'aujourd'hui, il ne le sait pas, il pense d'être un nomade, mais il n'est pas vrai. Il a besoin, il a dit « je suis fatigué, je vais à la maison ».
C'est très intéressant, un espace comme ça, parce qu'un espace comme ça est une transformation pour vivre. Et je suis sûr qu'on a besoin, dans le futur, l'espace dans la tête et l'espace physique pour vivre. Et ça, c'est une question maintenant qui est dans tout le monde. Alors, avec la Biomista, si vous visitez le site, ce sont des questions qui sont ici.
Et cette maison, elle est
complexe, il est contradictoire comme il est la vie. Il y a des maisons qui on vend comme la société de consommation, les habits ou le marché. Et il y a des autres qui ont plus conscience des valeurs, par exemple, du cycle solaire. La maison, C'est l'instrument spatial qui vous permet de lire le jour et la nuit. Le soleil d'un côté et le soleil de l'autre côté. C'est-à-dire, il veut mettre en rapport avec l'énergie solaire, avec le cycle des saisons. C'est un moment important, la maison. C'est pas un hasard qu'il est au centre du marché et de la spéculation.
Mais à visiter le site, on se trouve entre plusieurs mondes en même temps.
Oui.
Il y a un monde de l'architecture contemporaine.
Oui.
Il y a un monde de l'esthétique, mais il y a un monde du biologique, du scientifique, du politique. C'est au carrefour de tous ces mondes que l'artiste Koen van Mechelen, que vous êtes, se trouve.
Oui, je pense. On a posé des questions. Parce que si tu vois dans le monde, il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Je n'ai pas de solution, ça c'est vrai. Mais l'art a des questions. Toutes les choses, comme vous dites, c'est important de faire une réflexion et une mix. Parce que toutes les cultures maintenant sont ensemble ou pas ensemble. Et ça, c'est aussi un problème. Si c'est pas ensemble, il y a un grand problème parce que vivre ensemble, c'est une manière de respecter. Alors, la biomista va parler de ça et penser à toutes les choses dans la vie qui en ont besoin pour vivre. C'est de l'architecture moderne ou c'est de l'architecture vieille, c'est un animal, de nature. On a besoin de tous les ingrédients pour vivre. Et moi, je travaille avec tous les ingrédients. Il n'y a pas autre chose. Hein? L'art, c'est une réflexion. C'est une critique, mais ce n'est pas critique. C'est un commentaire, quelque chose comme ça.
Dans le discours du maire, mais aussi Koen van Mechelen lui-même, il a dit que ceci est le troisième site de mine de charbonnage à Genk. Le premier qui est devenu Seamine, le deuxième qui est devenu Torwaterslee. Mais non, ici c'est le troisième site qui est, oui, renaît comme une renaissance cosmopolite. C'est ce qu'il aime dire.
Que le marché et la spéculation, ils savent bien où aller apprendre leur intérêt, leur spéculation.
Dans le paradis, il y a un grand conflit. Et le conflit, c'est la procréation. Le serpent qui vient dit « On va construire le monde ou ne construisez pas. » Alors, construire l'amour. Ça, c'est la contradiction dans le paradis. Et ici, c'est la même chose. Si je construis l'idée, c'est comme un serpent. C'est comme un serpent. Et je demande à moi, où est le serpent? Alors, le serpent, c'est le promenade. Et nous sommes lequel qui fait le promenade. Je pense que ça, c'est une grande idée de paradis. Alors ici, c'est faire une promenade pour construire un autre monde. Qui est, comme le nom, le mix of life, la biomista, la français, bio international, mista italien. Alors c'est un mix dans le monde.
Mais au-delà de la maison cosmique, on va dire, quelle est la maison contemporaine que nous pouvons partager aujourd'hui?
C'est très difficile puisqu'il n'y a pas une seule indication, simplement puisque la maison elle est soumise aux luttes des différents corps sociaux, des différentes contradictions qu'on vit dans la vie de la ville. La ville, elle est l'espace, c'est la maison plus grande dans laquelle on tient toutes les contradictions qu'on peut vivre. Les différents états sociaux. Et est inévitable que la maison soit le reflet de ça, puisque ce n'est pas seulement un problème de culture.
D'une mine à l'autre. De Wallonie à la Flandre, de la province du Hainaut à la province du Limbourg. À la province du Hainaut, Cool Quartet. Et du côté de Bois-du-Luc, avec autour de Marie-Poc, Isabelle Sir Jacobs et les voix de Géraldine Barbery, Françoise Sulkens, Claude Michaud. Et à la province du Limbourg, à Genk, La Biomista, de l'artiste Koen van Mechelen. Avec Wim Dries, Lislo Reimans, Koen van Mechelen et Mario Botta. D'une mine à l'autre, par Thierry Jeunicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.